Alors, Hélène Frade nous rejoint aujourd'hui. Cette information, pour commencer, du Figaro, mais ensuite confirmée par France 24, le journal affirme que l'Algérie a décidé d'expulser 12 agents de l'ambassade de France qui disposent de 48 heures pour quitter le territoire.
Et d'après le Figaro, Charles, qui évoque une mesure inédite depuis 1962, les fonctionnaires français expulsés relèvent tous du ministère de l'Intérieur. Et cette décision cible directement son patron, Bruno Retailleau, en représailles à l'arrestation en fin de semaine dernière de 3 hommes, dont un agent consulaire algérien, soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement ici en France, il y a un an, de l'influenceur algérien Amir Boukhols, dit Amir DZ, un opposant au pouvoir politique algérien qui a trouvé l'asile ici en France en 2023. Le Figaro rappelle que les autorités algériennes avaient prévenu au lendemain de ces arrestations que cet incident, je cite, aurait inévitablement des répercussions sur la réconciliation franco-algérienne, et il indique que cette nouvelle poussée de fièvre franco-algérienne risque évidemment de freiner la reprise de la coopération, en particulier dans le domaine du renseignement, et hypothéquer d'ailleurs aussi la venue annoncée en Algérie du ministre de la Justice français Gérald Darmanin. C'est ce qu'affirme en tout cas le site Algérie patriotique, en martelant, je cite toujours, que le semblant d'embellir dans les relations mouvementées entre la France et l'Algérie aura été de très courte durée. Et le Khabar, qui est un quotidien algérien arabophone, cite Hasni Obeidi, il est professeur de relations internationales à l'Université de Genève. Il dénonce, je le cite, une tentative délibérée de contrecarrer le rapprochement entre l'Algérie et la France, et il appelle Alger à ne pas tomber dans l'escalade recherchée par certaines parties, aussi bien en France qu'en Algérie.
À la une de la presse également, la victoire hier à la présidentielle au Gabon du général Brice Oligui Nguema.
Le pays, qui est un quotidien burkinabé, annonce une victoire nette et sans surprise dès le premier tour, qui consacre la trajectoire fulgurante d'un homme passé du statut de chef de la transition à celui de chef d'État plébiscité. Une élection sans violence majeure, mais que plusieurs observateurs, Charles, décrivent ou ont décrite plutôt comme verrouillée, avec des accès déséquilibrés aux médias publics et un climat politique peu propice à une vraie compétition politique. Brice Oligui Nguema, élu l'Observateur Palgré, qui est un autre quotidien burkinabé, se demande jusqu'où le nouveau président tiendra le pari de la rupture avec la dynastie Bongo et s'il va poursuivre l'élan actuel de la lutte contre la corruption, la gabegie, le clientélisme, le chômage, etc. Pour le Figaro, Brice Oligui Nguema incarne, je cite, une nouvelle ère qui ressemble parfois à l'ancienne, et il se présente comme en quelque sorte le bon élève putschiste aux yeux de la communauté internationale. Il a organisé donc des élections avant même la fin de la période dite de transition, loin de ce qu'au fond l'autre responsable de junte sahélienne, qui rejette, on le sait, ouvertement le jeu démocratique. Et il a soigné aussi ses relations avec ses partenaires, notamment la France, où il s'est déjà rendu à 4 reprises à l'invitation d'Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs salué la tenue de cette élection gabonaise.
La presse internationale maintenant qui revient largement sur le bombardement russe dont on a parlé hier de la ville ukrainienne de Soumy, qui a tué au moins 34 personnes.
D'après The Guardian, le quotidien britannique, l'ampleur de ces pertes civiles illustre, je cite, une culture russe de l'impunité et pourrait forcer Washington à se montrer plus ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine, alors que les négociations de paix, entre guillemets, piétinent depuis maintenant 2 mois. Exilée à Berlin depuis l'offensive russe contre l'Ukraine, cette femme, la grande écrivaine russe Ludmila Ulitskaya, exprime toutefois son pessimisme. Tant que les tchéquistes, l'ancienne police politique soviétique, tant que les tchéquistes donc resteront au pouvoir, dit-elle, rien ne changera. Ce sont des propos qu'elle tient dans Le Monde pour cette passionnée d'histoire qui raconte s'être replongée dans les récits d'exilés russes d'il y a 100 ans. Leur destin diffère beaucoup de celui des réfugiés russes d'aujourd'hui. Je la cite toujours, il vivait dans l'illusion de pouvoir rapidement revenir à Moscou et de retrouver une Russie transformée en pays civilisé. À l'époque, on pouvait rêver d'une nation en chemin vers la lumière. Le pouvoir actuel a détruit tous ses espoirs.
Et d'un grand écrivain à l'autre, Mario Vargas Llosa, prix Nobel de la littérature en 2010, est mort hier à Lima. Il avait 89 ans.
Oui, évidemment, la disparition de l'auteur de La ville et les chiens fait la une de toute la presse nationale, dont celle d'El Comercio, hein, pour lequel Vargas Llosa avait rédigé du temps de la jeunesse pas mal de chroniques. Le journal annonce la mort du Péruvien le plus universel, hein, le dernier écrivain du boom, de ce qu'on appelait le boom littéraire latino-américain. Il avait d'ailleurs rencontré à Paris au début des années 60 d'autres grands écrivains latino-américains de cette génération, Gabriel García Márquez et Julio Cortázar. El País, qui est un quotidien espagnol, parle d'un géant de la littérature universelle, auteur de chefs-d'œuvre comme La conversation à la cathédrale, un conteur extraordinaire, hein, et un intellectuel influent de la vieille école, c'est-à-dire avant les réseaux sociaux.
Merci Hélène pour cette revue de presse.